CFM Cahors, le mag.
Et bienvenue sur CFM Cahors, c'est le week-end enfin. Et comme c'est un long week-end évidemment, vous allez avoir besoin de livres. Et voici les conseils dans quelques instants, deuxième partie de cette émission, de nos libraires lotois qui vous donnent leur coup de cœur encore pour aujourd'hui grâce à l'OEVA de la librairie Calligramme à Cahors. Et puis sinon en ce moment, eh bien direction la chambre de commerce et d'industrie puisque ce sont les élections des représentants et notamment de la présidence de la chambre de commerce et d'industrie un peu partout en France et notamment dans le Lot. Nous serons avec le candidat et unique d'ailleurs candidat à sa réélection, c'est Jean Hugon. C'est maintenant, vous êtes sur CFM Cahors, c'est votre mag, bienvenue. En ce moment, c'est l'élection consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie du Lot. Ça y est, il faut voter pour la liste qui représentera les commerçants et l'industrie dans le Lot. Et cette liste, elle est représentée par Jean Hugon. Bonjour, Monsieur Hugon.
Bonjour.
Alors, vous, en plus, Monsieur Hugon, vous représentez tout simplement. Le dernier mandat, c'est vous qui étiez à la tête. On sait dans quelles circonstances. Bon, on ne va pas trop revenir dessus, mais comment se porte le commerce et l'industrie dans le Lot, finalement, depuis cette crise?
Depuis cette crise, alors, la Chambre de commerce a été, justement, pendant cette crise, encore plus présente que d'habitude, pour accompagner toutes les entreprises et tous les commerces sur les différents dispositifs qu'il y a eu, que ce soit l'activité partielle, que ce soit les différents dispositifs d'aide, que ce soit aujourd'hui le plan de relance. Donc les entreprises et les commerces aujourd'hui ont réussi à passer cette première partie de crise. Néanmoins, on reste très très vigilant pour l'avenir, on l'a dit, avec le remboursement des prêts et puis avec à un moment donné aussi l'URSSAF et les autres organismes qui vont rattraper les entreprises pour leur demander de se remettre à jour par rapport à tous les reports dont elles ont pu bénéficier.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie en temps normal et puis le rôle que vous avez eu pendant cette crise?
Alors, le rôle en temps normal, c'est l'accompagnement des entreprises. Ça passe par à la fois être leur représentant auprès des différentes institutions que sont l'État ou les collectivités. Donc ça, c'est le rôle en temps normal, mais ça a été d'autant plus vrai pendant cette période Covid. Et puis l'autre volet, c'est tout l'accompagnement des entreprises, que ce soit par de la formation, que ce soit par de la diffusion d'informations par rapport aux différents mouvements de réglementation qui peut y avoir. Voilà, donc ça, ce sont les deux secteurs d'activité de la Chambre et qui ont été valables, qui sont valables en permanence et qui ont été valables pendant la crise, mais de manière démultipliée quand on a vu le nombre de dispositifs qu'il y avait pu y avoir et l'évolution de ces dispositifs pendant cette période très courte des 18 mois de crise sanitaire.
Alors vous représentez la liste de l'Union des entreprises lotoises. Pour l'instant, c'est effectivement la seule liste qui est en candidature. Pourquoi il est important finalement à ce que les adhérents à la Chambre de commerce et d'industrie aillent voter quand même alors que finalement vous n'êtes qu'une seule liste?
Alors c'est qu'une seule liste. Cette liste elle est composée de 24 élus. Toute la difficulté de composer cette liste, c'est d'avoir une représentation la plus large possible sur l'ensemble du territoire. Elle est divisée en trois secteurs qui nous sont imposés, le secteur commerce, le secteur industrie, le secteur service. Et à chaque fois, on a un nombre d'élus par secteur. Ensuite, dans tous ces secteurs, dans l'industrie, il faut qu'on puisse représenter la petite industrie, la grande industrie, dans le commerce, le petit commerce, le grand commerce, et puis partout dans le territoire, aussi bien à Cahors, qu'à Souillac, qu'à Figeac, qu'à Gourdon, etc. Donc du coup, difficulté pour constituer une liste la plus hétérogène possible. Cette liste, donc 24 personnes. Sur les 24 personnes, il y a 14 personnes qui étaient déjà en place sur la mandature précédente. Ça veut dire que les gens qui s'impliquent là-dedans sont vraiment motivés pour défendre les intérêts des entreprises et puis accompagner et les accompagner. une seule liste qui rassemble les différents syndicats. Donc, elle est portée par l'UEL, mais on a donc des adhérents de l'UMM, on a des adhérents de la CPME, on a des adhérents du MEDEF, on a des adhérents de la FPTP, on a des représentants des commerçants, on a aussi le président de la Mécanique Vallée. Donc, on essaye d'être le plus représentatif possible sur une seule liste. On a cette chance, justement, d'avoir qu'une seule liste. Il ne faut pas pour autant que les gens oublient de voter, puisque plus on aura de participation à cette élection, et plus on sera légitime lorsqu'il faudra aller défendre les intérêts des entreprises auprès du gouvernement, auprès des représentants de l'État, auprès des collectivités, comme je vous le disais tout à l'heure.
Est-ce que l'on doit comprendre que s'il y a un fort taux d'abstention, votre liste sera forcément élue, mais pour vous, il y aurait moins de légitimité peut-être à exister et à apporter de l'aide, ou ça veut dire peut-être un peu plus de boulot pour faire comprendre justement cette légitimité?
Alors d'une part, si on avait un beau taux de participation, ça montrerait que un petit peu de reconnaissance des entreprises par rapport à tout le travail qui a été fait. Alors, qui est fait en permanence, mais qui a été fait à plus forte raison pendant ces 18 mois, enfin depuis le début de la crise. Donc, ça serait déjà une reconnaissance de la part des entreprises. Et puis après, effectivement, au niveau des rôles qu'on a à tenir, c'est beaucoup plus facile d'aller plaider la cause des entreprises quand aux élections on a atteint un pourcentage de vote important que quand on a fait qu'un faible taux de participation. Voilà, on a d'autant plus de légitimité devant les différentes institutions.
Jean-Hugo, on s'est croisé plusieurs fois pendant cette crise lors de conférences de presse. Vous étiez toujours sur le qui-vive parce que les normes changeaient. Il y avait les fermetures des restaurants et puis on a ouvert aussi un peu pour les ouvriers de l'extérieur. Et puis à chaque fois, il y a des protocoles qui changent, des commerces qui ferment puis qu'on nous autorise à rouvrir. Au final, c'était 18 mois qui étaient quand même très très durs. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ayez envie de remettre ça, sachant que pour l'instant la crise n'est pas finie non plus?
Exactement, donc je pense que oui, on a eu 18 mois intenses, mais je pense que c'est pas terminé et qu'on aura intérêt à être aux côtés des entreprises pour les mois qui viennent. Mais au-delà du phénomène crise, on a aussi les missions courantes de la Chambre de commerce et ça me plaît de pouvoir accompagner les entreprises et de pouvoir mettre en place les dispositifs qui permettent d'accompagner les entreprises à leur croissance, faciliter aussi les reprises et les transmissions, puisque la Chambre de commerce est aussi très présente pour accompagner les créateurs ou les repreneurs de commerce et d'entreprises. Donc voilà, c'est ce qui m'anime. Sur ce volet, chambre de commerce.
Qu'est-ce que vous portez alors comme projet? Est-ce que c'est une continuité ou est-ce qu'il a fallu adapter le projet par rapport à tout ce qui s'est passé? Je veux dire, par là, les attentes sont-elles différentes finalement depuis 18 mois?
Alors, depuis 18 mois, les attentes sont légèrement différentes. Surtout, ce qu'il y a, c'est que ça fait quelques années que les chambres de commerce sont sous le coup de restrictions draconiennes de frais de fonctionnement depuis l'État. C'est-à-dire que le budget d'une chambre de commerce avant était à 80% financé par des taxes. Aujourd'hui, on est plus qu'à 40%, donc il a fallu aller chercher 60% de prestations que vendent les chambres de commerce. Donc ça sera à continuer, bien sûr, pour les années à venir.
La chambre des métiers, elle s'oppose à ce qu'il y ait, comme on en parle régulièrement, une union des deux chambres, la CCI et la CMA. Vous êtes pour ou contre, vous, Jean Hugon?
Alors, je ne suis pas sûr que la CMA s'oppose réellement à ça, mais de toute façon, je pense que le coche a été raté il y a quelques années de ça. Aujourd'hui, la CMA est régionalisée. La CCI, elle, est territoriale et ça fera partie des choses qu'on défendait, c'est-à-dire que nous, on veut absolument que la chambre de commerce reste territoriale pour arriver à ne pas être noyé dans une grande région qui, en plus, aujourd'hui, compte quand même 13 départements qui ne sont pas tous à la même échelle. Et donc, on a besoin que les chambres de commerce restent territoriales pour être au plus près possible des entreprises et porter les besoins de terrain. Et non pas ceux une grosse métropole qui pourrait prendre le dessus d'une ou deux grosses métropoles qui pourraient prendre le dessus dans la région. Alors, ça fait partie aussi des objectifs du mandat, d'arriver à bien défendre et de continuer à défendre cette partie territorialisée des chambres de commerce.
Alors je vais être un petit peu plus précis dans ma question, effectivement c'est pas la chambre des métiers, mais c'est la liste qui vient d'être élue dans le Lot, soutenue par l'UDP, qui s'oppose effectivement à cette fusion. Qu'est-ce que vous leur répondez? Pourquoi effectivement c'est nécessaire et pourquoi eux ils ne veulent pas?
Alors, même si c'est pas, même si encore une fois, je pense pas qu'on puisse y arriver maintenant, compte tenu de trajectoires, compris la CMA et la CCI, néanmoins, on aura intérêt, bien sûr, à travailler en très bonne intelligence les uns les autres. On a beaucoup de ressortissants qui sont à la fois inscrits CMA et CCI, donc il faut que les offres qu'on puisse proposer, les services qu'on puisse amener soient complémentaires et ne viennent surtout pas en concurrence. Donc, je pense qu'on n'aura quand même pas de difficulté à dialoguer pour arriver à avoir une entente convenable et puis, encore une fois, être le plus proche possible de nos ressortissants et puis pouvoir répondre à leurs attentes au mieux possible sans rentrer dans des conflits entre les CMA et les CCI qui n'auraient pas lieu d'être.
Jean Hugon, les élections donc du 27 octobre au 9 novembre, un vote qui est dématérialisé, comment ça se passe?
Alors oui, pour cette année, c'est le vote est entièrement dématérialisé. Les ressortissants, donc que ce soit les commerçants, les industries, les entreprises, etc., vont recevoir leur matériel de vote ou par voie électronique ou par voie postale, et ce à compter du 26 octobre. Donc ils pourront voter du 27 octobre au 9 novembre à minuit en se rendant sur le site www.jevote.cci.fr. Tout ça est rappelé dans le matériel de vote qu'ils vont recevoir. Ils auront un code, ils se connectent, ils saisissent leur code, leur date de naissance. Ils valident la liste pour laquelle ils veulent voter et puis ils clôturent leur vote. Ça prend 2 minutes montre en main et le dépouillement, lui, aura lieu le 10 novembre. Donc voilà, donc tout le monde aura les éléments pour voter au 27 octobre, et du 27 octobre au 9 novembre, on peut voter 24-24, puisque c'est dématérialisé, donc il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de souci pour pouvoir voter, et dépouillement le 10 novembre.
D'accord, très bien, donc on connaît un petit peu votre programme, on peut le lire sur un site internet quelque part, une page Facebook, un réseau social?
Alors, sur les réseaux sociaux, oui. Et puis, avec le matériel de vote, le matériel de vote sera accompagné de notre programme de campagne, avec aussi la présentation de l'ensemble des 24 candidats à cette élection.
C'est combien de temps un mandat à la tête de la CCI, Jean Hugon?
5 ans.
5 ans. Donc, vous êtes, voilà. Vous êtes prêt à repartir pour 5 ans, alors. On a bien compris.
On est prêt pour repartir pour 5 ans.
Merci Jean Hugon, tête de liste de l'Union des entreprises lotois. On rappelle donc que tous ceux qui sont concernés par ce vote vont recevoir le matériel. Ça va se passer dans quelques jours, là, du 27 octobre jusqu'au 9 novembre. Et ça sera un vote dématérialisé. Et on a bien compris en tout cas que même s'il n'y a qu'une seule liste qui se présente, il est très important que vous ayez l'unanimité le plus possible pour pouvoir représenter le mieux qu'il faut les commerces et les industries du Lot. J'ai bien résumé la situation, Jean Hugon?
Parfait, vous avez tout dit. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jean Hugon.
Merci.
Eh oui, c'est le vendredi. Vous savez que quand on est à la librairie Calligramme, ça veut dire que c'est bientôt le week-end et qu'on vous donne des idées de lecture. Encore 2 livres à lire et qui vous sont proposés donc par Loéva. Bonjour Loéva.
Bonjour.
Libraire à Calligramme à Cahors. 2 livres. Alors là, j'aime bien parce que tu as choisi. Il y en a un, il est énorme et l'autre un peu plus petit. Donc du coup, ouais. Bon, on commence par le plus gros.
On commence par le plus gros.
Allez, L'été de tous les possibles de Jennifer Niven chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est un livre pour la jeunesse.
Voilà. Exactement. On va y suivre Claudine qui a 18 ans et en fait elle va passer, elle a prévu toutes ses vacances de fin d'année comme elle a fini les études et elle va partir à la fac. Et elle se dit je vais les faire avec ma meilleure amie, on va partir ensemble vu qu'on est séparés pour la fac. Et là une nouvelle tombe, ses parents se séparent. Tout s'écroule.
C'est bien.
Et elle se retrouve
juste avant l'été. Super.
Oui, voilà. Vraiment très bonne nouvelle.
Ouais, très
et
bien.
Du coup, sa mère lui dit et tes vacances sont annulées. Tu pars avec moi sur une île.
Cool.
Paumée.
Une maison mieux.
Voilà. Maintenant, tes vacances, elles sont fichues. Et c'est tout. Et du coup, on va la suivre, se lamenter un peu et se dire je vais passer le pire été de toute ma vie. Et en fait.
Avec ma Rome.
C'est ça. Et en fait, elle va y rencontrer Jérémia et ça va être. Ça va devenir juste le meilleur été de toute sa vie, en fait. Parce que c'est le premier garçon qu'elle va rencontrer et ça va être son premier amour aussi.
Oui, mais alors pourquoi ? Parce que des romans comme ça qui racontent les premiers amours des jeunes filles, de jeunes garçons, il y en a plein d'autres.
Il y en a
mais
plein.
Pourquoi celui-là, il
pourquoi
t'a plu ?
Celui-là ? Parce que les sujets abordés sont extrêmement bien écrits, qu'elle parle du sexe, des règles, du premier amour. Il n'y a pas de tabou.
Ah oui.
Avec elle, et que c'est mon autrice préférée aussi, donc ça aide beaucoup.
Ah oui, voilà, on en sait un peu plus.
Et les sujets du coup qui sont abordés le sont très peu dans la littérature ado-adulte, ça reste des sujets qui restent relativement tabous, et du coup j'ai vraiment apprécié pouvoir les retrouver ici.
Alors, livre quand même qui... Alors, je regarde, mais pareil, il y a un gros paquet, là.
Il fait 500 pages.
Ouais, presque 500 pages, 449 exactement. Et tu penses quand même que pour des jeunes, parce que c'est pas un livre de poche non plus, hein, donc...
Non, mais il se lit tout seul, en fait. Parce que Jennifer Niven, elle a une plume qui est très poétique et très réaliste. Donc, du coup, c'est très doux et on y immergeait avec elle. C'est-à-dire que Claudine, moi, j'avais l'impression d'être avec elle sur l'île. J'avais l'impression d'être avec elle à la plage, d'être dans l'eau, de visiter l'île. Il y avait tout qui se dessinait devant mes yeux et c'était fou en fait. Elle a une façon d'écrire qui est vraiment éblouissante.
Donc dans un seul roman, il y a tout, les Claudine à la plage, Claudine amoureuse, Claudine chez maman, etc. etc.
Exactement.
Très bien. Des choses à rajouter sur ce livre ?
C'est un livre qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi. Et on se rend compte que, moi personnellement étant une jeune femme, qu'à 18 ans, effectivement, j'avais pu vivre plus ou moins les mêmes choses qu'elle. Et ce qui est beau, c'est qu'on va la suivre, apprendre beaucoup de choses avec Jérémia, mais que Jérémia va apprendre aussi beaucoup de choses avec elle. Donc c'est une belle histoire d'entraide aussi.
Alors... D'accord, mais est-ce que ça va aussi un peu changer son rapport avec ses parents aussi ?
Oui, totalement. On va suivre sa difficulté à... Comment dire ? À pardonner son père, puisque pour elle, c'est sa faute. Et du coup, elle va avoir beaucoup de mal à lui reparler. Et elle va avoir beaucoup de mal aussi, tout simplement, avec sa mère, puisque elle lui a gâché ses vacances. Et en fait, on va la voir juste réfléchir, comprendre et pardonner. Et c'est très beau.
Très bien. L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. Et en plus, donc, j'ai cru comprendre que c'était un livre qui était traduit.
Oui,
donc, c'est un livre qui est
américain.
D'accord. Et chez Gallimard Jeunesse, avec tout ce qu'il faut pour des jeunes. Et comme on dit, hein, il faut préparer les cadeaux de Noël.
Exactement.
C'est effectivement le moment. Deuxième livre. Alors là, il est un peu plus petit, quoiqu'il a l'air d'avoir autant de pages.
Oui.
Donc il doit en avoir peut-être même plus.
En fait, il y en a plus.
Il y en a presque 600.
Quasiment 600
pages. Ouais. Les fiancés de l'hiver chez Pôle Fiction. C'est quoi la passe miroir ? C'est la première partie d'une série ?
C'est la première partie d'une série en 4 tomes.
D'accord.
Écrit par Christelle Dabos, c'est une autrice belge ou française, je crois, qui a gagné un prix, en fait. Elle participe à un prix pour écrire ce premier tome et elle l'a remporté. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait découvrir et publier. Et moi, je l'appelle un peu le nouveau Harry Potter parce que c'est pour moi un univers de fantasy qui est juste merveilleux.
Parce qu'il y a un gros château, il y a encore un jeune
encore
sorcier.
Mieux.
Encore mieux.
En fait, Christelle Dabos nous recrée le monde tel qu'on le connaît comme un monde éclaté en citadelles. C'est comme ça qu'elle les appelle. C'est des îles flottantes. Et donc, du coup, on a des familles différentes qui vivent sur chaque arche depuis des années avec des dons. Donc, ils sont tous spéciaux.
Un peu comme les fameuses maisons Gryffondor, Serpentard, etc.
Il y a de l'aspiration derrière. Et nous, on va y suivre sur une arche appelée Anima, Ophélie. Et Ophélie, sous sa grosse écharpe et ses lunettes, eh bien, son don, c'est de lire dans le passé. Quand elle va toucher un objet, elle va pouvoir vous dire à qui il a appartenu et ce qu'il a vécu. C'est merveilleux. Enfin, et elle passe les miroirs aussi. C'est la passe miroir.
D'où le titre passer du les livre. Miroirs.
Eh bien, si elle est dans sa chambre et qu'elle va aller dans la cuisine, elle sait qu'il y a un miroir dans la cuisine, et eh bien elle va pouvoir y passer. Elle traverse le miroir.
Ça la met où ?
Dans la cuisine. Elle traverse le miroir de sa chambre et elle passe dans le miroir de la cuisine. Vous imaginez un peu ? C'est merveilleux.
On va faire un truc ici. Je vais installer un miroir au studio de radio et on va installer un miroir ici. Pour moi, ça sera plus simple de venir.
Hein. Tout à fait.
On va soumettre ça.
Et en fait, c'est un don qui n'est pas commun sur son arche et qui est très peu régulier dans la famille. Donc du coup, c'est vraiment un don qui reste suffisamment important, si vous voulez.
Et alors, donc, j'imagine que ça crée des jalousies, alors.
Exactement. Et en fait, elle va être fiancée à Thorn, qui appartient au clan des dragons sur une autre arche. Et du coup, elle va devoir le suivre au pôle. Sauf que le pôle, contrairement à là où elle vit, c'est complètement froid et inhospitalier. Elle n'a pas envie d'y aller, en fait. C'est logique, on ne veut pas quitter l'endroit où on est, surtout quand on est marié de force. Mmh. Et en fait, elle y va et elle se demande juste pourquoi moi et pourquoi je dois cacher qui je suis. Et en fait, elle se retrouve en plein milieu d'un complot mortel et politique.
Waouh.
Oui, waouh.
Bah alors, c'est pour qui ces livres
C'est pour tous les fans de fantasy. Je pense qu'à partir de 13 ans déjà, on peut le lire et on peut le découvrir parce que Christelle Dabos, elle a une plume qui nous fait voyager. Elle est vraiment belle et très vivante aussi. Même si son univers est complexe, il est très complet et époustouflant. Donc forcément, on ne le lâche pas.
Alors, tu compares ça justement à Harry Potter. Est-ce que l'écriture de l'autrice Christelle Dabo, est-ce qu'on peut la comparer aussi à J.K. Rowling?
Moi, je dirais même qu'elle est plus jolie.
Bon, tu vas te faire des ennemis, là.
Oui, je sais. Mais je la trouve vraiment
belle. C'est Loeva, la librairie Caligramme. Hein.
Je la trouve tellement belle que pour moi, elle n'a pas d'égal, en fait. Vraiment.
C'est... Belle, tu veux dire physiquement ou l'écriture?
L'écriture.
Ah, ouais.
Oui, non, physiquement, c'est quand même une belle femme.
D'accord.
Et du coup, si vous voulez, pour moi, ce récit-là, si on ne le lâche pas, c'est aussi parce qu'il est haletant. Il est rempli de secrets et de coups bas. Vu que c'est un récit qui traite quand même d'un complot, un minimum politique, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont assez étonnantes. Et moi, j'ai eu du mal à le lâcher parce qu'elle avait créé un monde que j'aurais aimé pouvoir avoir quand j'étais enfant, alors que je l'ai découvert que l'année dernière, donc c'était vraiment quelque chose de fou. Et au tout début, quand je l'ai commencé, je pensais vraiment que j'allais pas du tout accrocher avec le personnage principal qui est Ophélie, parce qu'elle est très silencieuse, maladroite, timide, enfin vraiment mon opposé. Et en fait, elle a une évolution et un développement tellement important dans le roman qu'en le refermant, j'avais la sincère conviction qu'elle pouvait devenir ma meilleure amie dans la vraie vie. Et c'est fou.
D'autant plus que c'est un livre qui est sorti en 2013, donc ça aurait été encore très trop jeune pour lire. Hein. T'étais encore petite.
Non, j'ai commencé à lire en plus à cet âge-là, mais je suis passée à côté. Mais c'est pas grave, j'ai pu tout lire d'un coup et ça m'a mis une belle claque parce que vraiment pour moi c'était un coup de cœur et la suite est encore plus époustouflante.
Alors ça veut dire qu'en gros c'est une saga. Il y a combien de volumes ?
Il y en a 4.
Il y en a 4.
Le 4 est sorti en poche là ce mois-ci d'ailleurs.
D'accord et donc du coup on se retrouve à se poser la question, est-ce que si j'achète le 3, je vais comprendre quand même, ou est-ce qu'il faut vraiment commencer par le 1? Ça, c'est important.
Il faut quand même commencer par le 1.
D'accord. Au moins pour avoir la situation.
Oui, exactement. Parce que
ça se suit.
Tout s'installe dans le premier tome et la suite, on la mange, quoi.
D'accord. Très bien, ça s'appelle Les fiancés de l'hiver. Alors là, on vous parle du premier tome, hein, La passe-miroir, mais il y a 3 autres tomes en plus. Et c'est chez Pôle Fiction. Je ne connaissais pas cette maison d'édition.
Ah, c'est Gallimard. C'est
une version poche de Gallimard.
Ouais, c'est la version poche de Gallimard.
Et à partir de 13 ans, si je comprends bien.
Oui.
Bon, bah voilà.
Facilement.
Et bah des bonnes lectures à vous proposer ici chez votre libraire indépendant. Vous n'hésitez pas, vous allez les voir, vous allez les conseiller. Prévoyez déjà vos cadeaux de Noël. Achetez les 4 tomes en plus en poche. Si je regarde le prix, je vais vous le dire, hein, 8,70 €. Pour un cadeau de Noël, 8 x 4, ça fait.
39 ans.
Ouais, ça doit être ça, en tout cas. Non, je sais pas, je suis nul en maths, pour ça que je te pose la question. C'est pour ça que t'es libraire, d'ailleurs, entre parenthèses, et que t'es pas dans les livres scolaires. Merci, Loeva.
Avec plaisir.
Allez, c'est un long week-end qui s'annonce ici, là, un peu partout en France, hein, pas que sur Cahors, d'ailleurs, entre parenthèses, et c'est surtout Halloween, et on vous invite forcément à venir à la Nuit des Morts Vivants, ce samedi 30 octobre, au doc de Cahors. Alors, le film, je l'ai regardé, je ne le connaissais pas, pour être franc. C'est vrai que c'est un film culte, mine de rien, même si c'est en noir et blanc, même si la musique originale fait un peu mal aux oreilles, et bien en tout cas, celle que va vous proposer Texas Texas sera peut-être moins agressive Quoique, on ne sait pas. Parce qu'en gros, le but, c'est que Texas sera en dessous de l'écran et interprétera devant vous les musiques en live, avec les bruitages aussi également. Donc, c'est à voir au Doc de Cahors. Et c'est ce samedi 30 octobre, la nuit des morts vivants, à 21h dans la grande salle. 8 ou 5 euros l'entrée. C'est pas cher et faites-vous plaisir. Allez vous faire peur avec ce film-là qui, mine de rien, n'a pas trop mal vieilli. Allez, c'est la fin de ce magazine. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. De rediffusion de ce magazine justement à 17h et 21h30 et puis à retrouver en podcast comme tous les autres sur cfmradio.fr dans un instant le journal. Et on reste ensemble évidemment.